midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 comme chaque jour. J'ai 60 minutes pour vous montrer que oui, la France bouge et que c'est vous qui la faites bouger. Aujourd'hui, c'est Noël et nous avons décidé de vous offrir l'une de nos pépites françaises. S'il y a un secteur où les acteurs tricolores préparent la relève, vous allez voir que c'est celui de l'horlogerie. Elle fabrique ses savons depuis 1900 chez Marius Fabre. C'est toujours une affaire de famille, c'est l'entreprise qui va bien, merci aujourd'hui. Et puis, il s'appelle Bob et même si vous habitez un studio, il peut vous rendre service. C'est le plus petit lave-vaisselle qui existe sur le marché et c'est la solution made in France du jour. C'est ça, la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
C'est donc au salon du Made in France que nous vous emmenons de nouveau aujourd'hui en ce jour de Noël parce qu'il y avait là-bas de très belles pépites françaises. Ce salon a eu lieu au mois d'octobre dernier et vous allez voir qu'il y a des secteurs où la France revient en force, doucement mais sûrement. C'est le cas de l'horlogerie. Nos invités sont là d'ailleurs pour en témoigner, pour les accueillir à mes côtés. Le retour d'Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach du jour, un habitué désormais, Jean-François Rial, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Fondateur de Voyageurs du Monde. Alors le berceau de l'horlogerie en France, c'est évidemment la région de la Franche-Comté. Ce fut le cas jusqu'au début des années 70. Et si la concurrence suisse n'est qu'à deux pas, c'est vrai, les entrepreneurs tricolores sont bien décidés à rebâtir la filière là où finalement tout a commencé, à Besançon, dans la région, quand les maîtres s'appelaient Silberstein, Leroy ou encore Dodane. Il y a eu là-bas, s'il vous plaît, jusqu'à 300 marques de montres, 400 entreprises dans la célèbre vallée de Morteau. C'est le cas de Florian Chausson qui veut redonner vie à cette filière. Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez lancé fin août, hein, c'est ça, la marque Routine ?
Début septembre, commercialement.
Début septembre. On était en ligne avec vous d'ailleurs, justement, au tout démarrage de Routine. C'est en faisant un stage dans ce secteur, en Suisse, justement, ouais, que vous avez commencé à vous passionner. Comment est-ce que ça a débuté ce projet ?
Ça a débuté à la fin de mes études, après un stage dans lequel je manquais cruellement de sens. Et j'avais envie de m'engager, de donner du sens dans ce que je faisais et dans ce que j'entreprenais. C'est pour ça que je me suis orienté vers l'entrepreneuriat pour faire converger mes compétences professionnelles d'un côté, étant diplômé d'une école d'ingénieur et avec différentes expériences professionnelles, et mes convictions personnelles de l'autre, de porter un projet qui porte mes valeurs et mes engagements.
Alors, vous avez lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule.
Ouais.
Alors là, vous avez été, je peux le dire, hein, dépassé par le succès.
Tout à fait, et tout à fait. J'ai lancé donc commercialement Routine le 4 septembre sur Ulule. Ça faisait 2 ans que je travaillais sur le projet. Ces 2 ans ont nécessité et ont été nécessaires pour retrouver toute la filière et trouver les partenaires avec lesquels j'allais travailler. Et j'avais l'ambition de vendre un peu plus d'une centaine de montres pour lancer ma première production. Et j'en ai vendu un petit peu plus de 650 à la fin du mois du crowdfunding.
Alors aujourd'hui, 650. Vous êtes en phase de fabrication là en ce moment. Hein.
Et là, du coup, on a pu lancer la fabrication puisque le crowdfunding servait en fait aux gens à précommander leur montre. Donc moi, leur argent va me servir à financer la première production pour relancer...
Sans dilution de capital.
Jean-François Rial.
Sans dilution de capital.
Ouais, c'est étonnant. Hein.
Ouais, moi, je suis sidéré par ce succès incroyable. Mais alors, il y avait une différenciation très forte, une valeur ajoutée très forte à vos montres. C'était quoi l'angle ?
Alors effectivement, les gens ont acheté...
Parce que la montre Routine. Bon, ok, mais... C'est quoi la montre ? Comment vous avez convaincu vos gens ? Parce que c'est pas juste le succès du crowdfunding, vous avez autre chose.
Oui, alors après, j'ai essayé de communiquer de manière intelligente pour essayer de faire passer auprès des consommateurs ou des clients et des potentiels clients mes engagements, mes valeurs et mon combat et la mission de Routine. Donc le fait de s'engager pour une montre réellement fabriquée en France et qui cherche et dont sa colonne vertébrale...
À 86%, c'est ça.
Exactement,
hein,
86% des composants sont fabriqués en France et la colonne vertébrale de Routine, c'est tout ce qu'on peut faire en France, on le fait en France. Donc c'est pour ça qu'on arrive à atteindre...
Clé, c'est pas la qualité de la montre, ce qu'elle fait, c'est je la fais en France.
Alors non.
C'est montrebourg.com quoi.
La manière dont j'ai convaincu les gens, c'est d'abord par le message pour les interpeller, mais derrière les gens ont acheté sur 3 critères. C'est parce que c'est beau, c'est parce que c'est de qualité et c'est parce que c'est accessible.
Ah, c'est beau, donc déjà ça c'est intéressant.
Personne n'a envie d'acheter une montre moche et donc du coup forcément, c'est que les montres plaisent.
Moi je crois beaucoup à la valeur de l'esthétisme dans le business.
Tout à fait, et c'est hyper important puisque les gens veulent porter avec routine, ils peuvent porter leurs valeurs, mais aussi porter un style et s'affirmer aussi avec.
Elisabeth, on va peut-être faire un petit point justement sur le marché de l'horlogerie en France. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ?
Mais ça va déjà beaucoup mieux, il faut le dire. Hein. L'horlogerie a connu en 2017, on peut appeler une vraie sortie de crise avec une reprise de la croissance de 4%. Il y avait eu une chute de 6% en 2016. La montre, c'est le principal moteur de développement de l'ensemble du secteur, donc horlogerie, joaillerie, c'est l'ensemble du secteur. Et notamment, c'est le marché haut de gamme qui tire le marché, enfin, ce secteur de l'horlogerie, la filière vers le haut.
Pourtant, c'était pas gagné, on va le dire clairement. Ça fait un demi-siècle que la filière était en train de sombrer.
Oui, elle peinait. Hein. Depuis les années 70, ça n'allait pas, au-delà des coûts de main-d'œuvre. Les filières de production n'ont pour la plupart pas survécu aux années 70. Et aujourd'hui, les Français sont un peu partout. On a un exemple là, en studio avec nous. Mais. C'est compliqué d'être 100% made in France.
Alors, mais Elisabeth, juste une question. Quand tu dis que c'est 4% de croissance, c'est le marché de l'horlogerie en France. C'est pas les fabricants français qui vendent en France.
Non, ça va mieux.
Il y en a combien des fabricants maintenant ?
Il y en a beaucoup moins qu'avant.
400 avant, combien maintenant ?
400 avant, beaucoup moins maintenant.
Là, c'est une poignée.
C'est très difficile, Jean-François, de répondre à cette question. Et je pense que Florian sera d'accord avec moi. Parce que quand on regarde la photographie de l'horlogerie, il y a trois grands secteurs. Hein. Et puis les fabricants, certains fabriquent une partie. Certains font uniquement le bracelet.
La filière, effectivement, est très complexe. Est très particulière et assez typique de l'horlogerie. C'est-à-dire qu'un fabricant égale un savoir-faire égale un composant. Si je peux caricaturer, c'est presque comme ça. Donc tous les fabricants ont été, pendant des années, et le sont encore aujourd'hui, très monoproduits. Donc sont très sujets aux aléas économiques de si le marché dégringole, les entreprises ferment assez facilement puisqu'elles n'ont pas d'autres secteurs sur lesquels se rebalancer.
Florian, justement, il y a des métiers qui ont totalement disparu. Je pense évidemment au métier de cadranier. Pourquoi ? On savait faire ça, on ne sait plus le faire.
Oui, on ne sait plus le faire puisque la demande a diminué puisque le marché s'est écroulé. À l'époque de la mondialisation que ces savoir-faire ont été perdus parce que tout simplement on est allé acheter ailleurs. On n'est plus acheté en France, on est allé délocaliser
ailleurs, quoi, en Chine.
Exactement.
Ou
en Chine, à l'île Maurice,
aussi, oui.
En Suisse, voilà. Et donc du coup, normalement, quand on arrête de se fournir en France, les fournisseurs ont plus de clients et donc du coup, ils finissent par fermer.
Et alors vous qui êtes dans le secteur, à votre avis, on a remonté la pente à quelle hauteur par rapport à notre zénith là, 50%, 30%?
Non, aujourd'hui c'est plutôt encore assez anecdotique.
C'est balbutiant. Hein.
Ouais, c'est 5-10% maxi quoi, de notre
même
zénith.
Pas, même pas.
Non, on s'est fait casser la gueule quoi.
Oui, exactement. On est passé à peu près de 50-60 000 emplois à l'époque à environ 2 000 aujourd'hui.
Europe 1.
On reste ensemble, créer de nouvelles marques, en faire vivre d'anciennes aussi. C'est le cas de Pékinier. Elle résiste au temps et s'impose sur le marché. La France qui bouge se poursuit avec vous, Raphaël Duchemin. On se demande souvent, hein, c'est vrai, ce que signifie vraiment le Made in France. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est parce que la marque est française ? Est-ce que c'est parce qu'elle est fabriquée ici avec des éléments qui viennent d'ailleurs ? Qu'est-ce qui est important finalement ? On va en parler peut-être avec notre prochain invité. Bonjour Aymeric Vernol.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des quatre repreneurs de Pékinier. Vous avez vous-même travaillé dans l'horlogerie et vous avez racheté l'année dernière l'entreprise dans laquelle vous étiez entré 5 ans plus tôt. Pourquoi ?
Une évidence. La marque française. À l'époque référence, quand j'ai démarré dans l'horlogerie en 91, on voyait Pékinier dans les vitrines, c'était la marque qui faisait rêver, la marque classique, les belles montres. Moi, j'étais représentant chez Tissot, qui est une marque suisse, et une évidence.
Oui, c'est une histoire, hein, Pékinier, c'est celle d'une marque, celle d'un homme aussi, Émile Pékinier, qui lui a, on peut dire, donné ses lettres de noblesse quand il l'a créée en 1973.
Tout à fait. Il a fait ce que fait Florian aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a créé une marque française, il a compris les rouages de la fabrication d'une montre, et il a mis en place, il a créé sa marque.
Et c'est intéressant parce que dans les années 70, ça ne va pas si bien que ça dans le monde de l'horlogerie.
Ça va pas mal.
Il y a une crise.
Oui, mais ça va pas mal puisque dans la mesure où il y a beaucoup de fabricants, il y a pas mal d'assembleurs, mais il y a très peu de marques. Il y a beaucoup plus en fait de sous-traitants
assembleurs.
Que de véritables marques qui osent se lancer. Et lui, il ose se lancer. Donc il se dit, à partir du moment où il a le circuit entre les calibres, les boîtes et ainsi de suite, il se dit, bah, je vais faire ma marque. Pourquoi est-ce que je vais...
Il a le circuit, vous avez dit le mot. Parce qu'on a des questions, on a notamment sur Twitter Blue Monde qui nous dit sur le hashtag Europe 1, malheureusement, ce métier a été tué il y a 50 ans. Vous êtes d'accord avec vous ? Avec lui, il est mort ce métier aujourd'hui ?
Non, il n'est pas mort du tout. Non, sinon on ne serait pas là. Il n'est pas mort du tout. L'horlogerie française n'est pas mort du tout.
Il faut la réveiller
et puis il faut ranimer le consommateur. Le consommateur aime le Made in France, aime les marques françaises, mais n'achète pas français.
Et pourquoi ?
La clé, c'est quoi ? C'est le marketing.
Tout à fait.
Alors ajoutez le marketing.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez foutu ? Pourquoi vous êtes fait casser la gueule pour les Suisses comme ça ?
Parce qu'aujourd'hui, nous, petites entreprises, on met tout sur le développement. Puisque nous, on a besoin de développer des produits, des nouveaux produits, des nouvelles productions.
Ils mettent tout sur le développement et rien sur le marketing.
Pour l'instant ?
Et ils se font casser la gueule. Ils fabriquent un produit fantastique, mais ils ont oublié qu'il fallait parler aux clients.
Alors justement...
Les Suisses ont fait l'inverse.
Aymeric Vernol, vous êtes là pour ça justement,
exactement,
de relancer cet aspect marketing qui manque parfois à l'horlogerie française.
Quand on reprend une entreprise ou quand on est dans l'horlogerie, qui est un milieu un petit peu pointu, au début on fait du tactique. On ne peut pas faire de stratégique, on n'y arrive pas. On n'a pas les moyens, ou en tout cas nous on n'a pas les moyens. Sauf s'il y a un investisseur qui appelle sur votre ligne. Moi je suis preneur pour les développements. On peut développer un calibre français, manufacture, on peut développer plein de choses. Mais on n'a pas les moyens. Donc aujourd'hui on va pas à pas. On commence par développer les produits, parce que c'est ce que les réseaux nous demandent. Et que sans produits, on n'a plus de réseau. Et ensuite, on essaye de motiver nos réseaux.
Vous parlez des réseaux, vous parlez des distributeurs, là.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Alors, Jean-François, je voudrais qu'on précise quelques petites choses. Il y a pas mal de marques, quand même, qui tentent de se relancer, qui, en tout cas, relocalisent en France, Elisabeth.
Oui, complètement. Vous avez, par exemple, la marque Acron, que vous connaissez peut-être, qui joue la carte de la relocalisation à fond. Elle fait appel à autant d'artisans français que possible. C'est une entreprise qui a été fondée en 2015 par trois copains. Elle est basée à Nantes. Leurs montres chez Acron.
Vous connaissez bien Acron, hein ?
Oui, on connaît bien Acron.
Acron. Elles sont assemblées à Besançon une nouvelle fois.
Ou à Morteau.
Voilà. Les pièces des montres d'Acron sont imaginées et dessinées à Nantes et seule la fabrication, et là on en parlait tout à l'heure, de ces pièces se fait à l'étranger. La fabrication de ces pièces se fait à Hong Kong. Vous avez aussi Charlie Paris qui existe depuis à peine 4 ans. Là aussi c'est du 100% français, enfin quasiment.
Quasiment comme vous dites. Je parlais d'Acron parce qu'il y a une histoire de sous-traitance, je crois, avec Acron.
Tout à fait,
hein,
tout à fait. On est en discussion avec eux et on travaille pour eux. On va travailler pour eux sur certains modèles.
Donc vous aidez des petites marques aussi à émerger.
Bien sûr, on est un artisan comme les autres.
Vous serrez les coudes.
Donc nous, on sait faire de l'assemblage. Nous, notre spécificité et notre force, c'est le calibre royal. Donc on a le savoir-faire de l'assemblage, de la conception et tout. Donc effectivement, quand on peut assembler pour d'autres marques, on le fait.
On n'a pas expliqué votre spécificité, c'est le calibre royal.
Exactement.
C'est-à-dire le mouvement mécanique très très précis. Ça, c'est fait à Morteau. C'est vraiment votre savoir-faire.
C'est la pépite de l'entreprise.
Depuis 2010. Hein.
Exactement. Il a été lancé en 2010, après 6 ans de développement.
Qui le sait, ça ? Qui le sait ? Ce que vous venez de me dire, là, votre pépite extraordinaire. Qui le sait ? Vos distributeurs ?
Vous avez raison.
Distributeurs,
ah bah ils sont là pour ça, les
distributeurs le savent.
Moi, ce que je voudrais, c'est que le consommateur le sache. C'est ça que je pense fait que vous avez un savoir-faire de folie, mais vous vous faites défoncer par les Américains, les Suisses,
bah,
les Chinois, etc.
Plus maintenant grâce à nous, Jean-François.
Mais c'est bien qu'ils viennent là. Mais...
Il y a ceux qui font et ceux qui parlent.
Très juste. Aujourd'hui, les collectionneurs le savent. Vous avez tout à fait raison. Les collectionneurs.
Voilà,
tout à fait.
Des gens hyper pointus.
Tout à fait.
Moi, je voudrais que monsieur dans la rue, là, ils savent qu'en France, on fait les meilleurs calibrages au monde et que ce n'est pas les Suisses qui vous les achètent.
Alors justement, on le fait. Comment on fait maintenant pour le faire savoir ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour parler de Pékinier, de ce calibre royal qui est quand même une véritable pépite ?
Alors, on a développé d'abord, parce que depuis qu'on a repris, on a sorti un calibre à remontage manuel avec une réserve senteur en petit prix, parce qu'on avait besoin...
Il ne nous parle que de produits.
Oui, mais parce qu'on avait de besoin d'étendre la gamme.
Mais je comprends, mais moi, parce que je ne veux pas vous lâcher, monsieur.
Mais je sais bien, mais le marché nous demande ça.
Mais je comprends, mais votre marché, c'est vos clients B2B, et vos clients B2B, vous dépendez d'eux, et le jour où ils achètent ailleurs, vous avez un problème. Et après, vous vous dites que la filière française va gérer des problèmes. Vous avez un sens de folie, vous devez le vendre en direct à vos clients finaux. Voilà ce que je pense.
Bon. Est-ce que c'est une option ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit ?
À aujourd'hui, non, pas clairement. Le retail
le
n'est pas
web.
Le web va y venir, mais
on peut pas.
Oui. Non, mais on va y venir sur nos réseaux. Nos réseaux sont un peu traditionnels et un peu archaïques. On est sur un mode de distribution complètement archaïque. Donc on ne peut pas non plus tout révolutionner d'un coup, et on ne peut pas non plus tourner le dos à des gens qui nous ont aidés, qui ont supporté la marque et qui nous gardent. Parce qu'ils nous donnent une visibilité, et que le web, c'est de la vente rapide, sans aucun contact.
L'horlogerie française, une filière à relancer, c'est le thème de La France bouge jusqu'à 14h et on en parle avec vous, Raphaël Duchemin.
Et oui, nous sommes toujours avec Jean-François Rial qui est passionné par ce secteur de l'horlogerie, toujours avec Elisabeth Assayag. À mes côtés également, Florian Chausson, fondateur de Routine, Aymeric Vernol, dirigeant de Pékinier. Et on va accueillir notre troisième invité avec des questions évidemment à se poser. Faut-il continuer à faire les montres comme on les fabriquait il y a encore 50 ans, voire davantage, ou faut-il qu'elles suivent le mouvement de la société? Eh bien, c'est en pariant justement qu'on pouvait peut-être allier les deux que deux frères se sont lancés. Bonjour Henri Gaucher.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé avec votre frère la marque Egide. Alors ça s'écrit H-E-G-I-D, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait.
Ce sont des montres modulaires. On va le dire tout de suite, ça faisait des années que vous vous amusiez à commander des pièces à droite, à gauche, sur Internet, hein, pour les assembler vous-même. C'était une passion.
Alors déjà, on l'a fondée à trois, cette société. Je tiens à saluer quand même Aymeric, encore un ici, qui s'occupe du marketing.
Il y a quelque chose,
chez nous, ce qui va vous plaire. Et effectivement, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par une passion mécanique, un besoin de comprendre, un besoin de savoir, où j'achetais des montres sur eBay pour les démonter, les remonter et en faire une qui marche avec trois qui ne marchent pas.
Ah oui, une qui marche avec trois qui ne marchent pas. Donc vous vous êtes dit, ben, il y a peut-être un business derrière ça. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas mes propres pièces pour les assembler de manière différente?
Oui, c'est une idée qui m'a effleuré l'esprit. C'est surtout une expérience qui m'a donné envie de travailler dans ce milieu et plus particulièrement dans le domaine de la montre mécanique qui a une spécificité tout à fait étonnante. C'est qu'elle n'a pas d'obsolescence, cette montre mécanique. On peut la garder sur plusieurs générations. On connaît cette anecdote de la montre retrouvée dans un tiroir du grand-père qu'on remonte et qui repart. Ça, c'est quelque chose, c'est une magie qui m'a toujours fasciné.
Vous avez sauté le pas, vous vous êtes lancé. C'est votre frère, je crois, qui dessine, hein, c'est ça?
Oui, voilà, on est une équipe de trois personnes tout à fait complémentaires. Avec mon frère qui est concepteur industriel et qui donc dessine des plans au micron près, au centième près. Aymeric de la Landre, donc notre troisième associé, qui s'occupe de tout ce qui est image et marketing et surtout... On l'a dit, commercialisation, et on réfléchit beaucoup justement à la transition qu'il va y avoir dans les années qui viennent. Et puis moi-même qui suis le passionné, qui ai 10 ans de carrière derrière moi à conseiller l'achat de grandes montres.
Et alors vous vous êtes dit, tout doit être interchangeable. Expliquez-moi, comment on fait? Moi le bracelet je connaissais, ça c'est assez classique. Qu'est-ce qu'on peut changer d'autre sur une montre finalement?
Ben, à mon avis on peut changer beaucoup de choses, mais nous on va se limiter à trois éléments. C'est-à-dire qu'un objet... complet, qui est une montre, on va le diviser en trois éléments qui sont le bracelet que vous connaissez, le mouvement qu'on a enfermé dans une capsule parfaitement étanche et avec des spécificités techniques très poussées, et la forme qui est autour, qu'on appelle nous la carrure, et qui donne le caractère et pourquoi pas la fonction de la montre.
Ça veut dire que vous rhabillez les montres en fait.
Exactement, on rhabille les montres et on a inventé un système de fixation rapide qui permet de le faire en quelques secondes, comme on va s'habiller le matin. On aime parler chez nous, non pas de collection de montres, mais de dressing horloger.
Alors, c'est fait en France, mais il y a un mais, comme pour vous Florian, pas de cadranier. Toujours pas.
Pas de cadranier, non. Et puis, pas de fabricant de mouvement, même s'il y en a quelques-uns, mais qui fabriquent surtout pour eux. Et puis, d'autres qui fabriquent trop grand et on ne peut pas les emboîter dans nos capsules.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-François Rial? Parce que là, vous êtes bien silencieux d'un coup.
Non,
je suis inquiète.
Non, c'est pas ça. C'est que vous ne vendez que vous. Alors, vous vendez en direct, vous avez des distributeurs. Comment ça se passe pour vous, là?
Mais nous, on est sur un système, justement, hybride. Système figital qui permet d'exposer, alors pas seulement chez des distributeurs spécialisés, mais dans tous les lieux qui peuvent être expérientiels, des lieux où on a envie d'aller et où on a envie de découvrir des choses, d'apprendre des choses. Et toute la partie administrative, par exemple, n'existe pas pour ces lieux parce que tout, au final, est vendu par notre site web.
Parce que l'idée, c'est vraiment de vous adresser aux millénials, hein, c'est ça, aux collectionneurs aussi, mais...
C'est pas très très cher, non?
Tout est relatif, on est quand même sur... Notre première collection, la série inaugurale Egide, donc, est à 2 800 euros pour la montre complète.
Ah oui!
Montre complète.
Mais le but du jeu, voilà, c'est de changer le business model de la montre tel qu'il existe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez acheter une montre de grande valeur mécanique tous les 5, 10, 20 ans suivant vos moyens. Nous, vous allez acheter une montre une fois et ensuite, ce sont des accessoires que vous pourrez vous faire offrir, la carrure, le bracelet, pour des anniversaires ou fêtes des pères, fêtes des mères, enfin les occasions de la vie.
Donc on va garder l'intérieur, le mécanisme, mais on va changer tout ce qu'il y a autour. Oui. Ça va faire des montres différentes.
Ça ne vous interdit pas de racheter une montre différente. Et à chaque fois que vous avez un nouvel élément, ça double le nombre de combinaisons. D'où l'idée de dressing.
C'est marrant parce que alors, moi, intuitivement, j'aurais pensé qu'un concept comme le vôtre était adapté à des montres très très peu chères, 300-400 euros maximum. Et pour votre gamme de prix, pour moi, ça ne peut pas marcher ça. Mais je me trompe peut-être, hein.
C'est-à-dire je suppose que vous avez fait une étude de marché.
Alors, non, je dois être à côté de la plaque, hein, mais c'est intuitif. Hein, vous voyez, ce
que je vous donne tort, cher monsieur.
Vous avez le droit.
On a fait effectivement des études de marché. Alors, c'est difficile parce qu'on est les premiers à faire ça, en tout cas avec ce business model-là. Mais il y a des exemples dans le bijou, par exemple, dans des prix très similaires, où ça se fait. L'accessoirisation, il faut le savoir, est extrêmement rare, mais il y a des exemples que je ne peux peut-être pas citer ici parce que ce sont des noms de marque, mais qui prouvent que c'est possible.
Et alors, en pratique, c'est combien vous en avez vendu depuis que vous êtes lancé?
On a vendu près d'un tiers de la production.
En nombre,
ça fait une trentaine.
Une trentaine.
Vous sur 90
lancé,
produites. Hein.
Vous êtes lancé en 2017, hein, c'est bien ça.
En 2018, cet été.
Vous avez démarré en 2017 la commercialisation des montres cet été en 2018.
Ça, ouais.
On reste ensemble, on continue
avec
à débattre
plaisir.
Et je vous le dis tout de suite, il y a pas mal de questions.
Europe 1.
Vous êtes prêt à mettre le prix pour acheter une montre française? Vous êtes de la région de Besançon, vous connaissez ses savoir-faire. C'est vous qui avez la parole sur Europe 1.
Il est 13h32 et jusqu'à 14h sur Europe 1, nous sommes avec Raphaël Duchemin. Vous écoutez La France Bouge. On s'intéresse aujourd'hui à l'horlogerie française et vous pouvez d'ailleurs nous faire part de vos commentaires sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Déjà peut-être un compliment pour vous et pour la marque Pékinier. Je suis possesseur d'une très belle montre Pékinier, nous dit Jean-Pierre en Gironde. Pas le mouvement royal, j'en ai pas les moyens, dit-il. C'est une marque magnifique aux produits extraordinaires. Ça, c'est aussi... Alors, il parle du mouvement royal. Vous avez vraiment une spécificité sur le mouvement.
Sur le calibre, oui. Ouais. Alors, il a tout à fait raison, puisque l'une de nos forces sur les marchés, c'est la cote affective. Les consommateurs nous aiment, la presse nous aime. On est une marque, entre guillemets, sympathique et appréciée.
Vous êtes entreprise du patrimoine vivant, j'ai oublié de le citer, mais c'est important. Ça veut dire que vous êtes là aussi pour maintenir des savoir-faire.
Voilà, avec de l'artisanat, certaines contraintes de l'artisanat, de niveau d'embauche et localement.
Vous avez des salariés?
Nous avons 18 salariés aujourd'hui.
Et alors, le mouvement royal, là, enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Là.
Le calibre royal.
Vous pouvez nous expliquer en deux secondes?
En deux secondes. 88 heures de réserve de marche, une grande seconde, une date triple saut, c'est-à-dire qu'à minuit, vous avez les trois disques qui sautent, à minuit 00 et non pas à minuit moins 10 ou à minuit 10. Phase de lune, réserve de marche 88 heures et un grand barillet surtout.
Qu'est-ce que ça veut dire réserve de marche 88 heures?
Ça veut dire que vous posez la montre. Vous êtes à l'heure, vous posez la montre pendant 88 heures, dans 87 heures et 59 secondes, elle sera toujours à l'heure.
Oui, il n'y a pas de pile.
Avant de s'arrêter.
Pas de pile.
Il n'y a pas de pile. On est sur un mouvement qui se remonte tout seul au mouvement du poignet. Vous avez un balancier qui tend un ressort.
D'accord.
Et après, vous avez un échappement qui est la division du temps.
Alors, si on voulait demain, vous êtes là tous autour de la table, si on voulait justement fédérer, faire que les choses changent, relancer véritablement cette filière qui a connu de grandes heures du côté de Besançon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On a une indication géographique qui est en train d'être mise en place. Est-ce que ça, c'est un des éléments qui peut justement relancer, faire redémarrer, redynamiser? Qui veut répondre, Florian, Henri?
Oui, répondre. À mon sens, il faut venir reprendre la confiance du consommateur et revenir lui valoriser notre savoir-faire local et leur expliquer qu'il y a des gens qui maîtrisent un super savoir-faire en France et qui font des produits de super qualité. Et d'ailleurs, qu'on a des marques qui sont capables de les porter, de les vendre aux clients et de le faire aimer aux gens. Et si on est capable de revaloriser notre filière et de revenir fabriquer en France, on devrait reprendre confiance aux gens et redévelopper nos marques tous ensemble.
On va demander à Alain ce qu'il en pense. Alain, qui est en ligne avec nous au 39-21 et qui est collectionneur de montres depuis qu'il est tout petit. Bonjour Alain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez, vous, des préférences, dites-vous, pour les marques françaises?
Oui, alors je voudrais surtout, bien sûr, les marques françaises, mais j'aime la montre, j'aime son aspect. Et je change de montre tous les 8 jours, 15 jours, ça dépend. J'en ai 20, 25. Et c'est quelque chose qui me plaît. Alors moi, les mécanismes, tout ça, malheureusement, je vais leur faire de la peine, mais c'est pas mon truc. Moi, c'est son aspect. Son aspect,
c'est l'objet,
je
l'objet.
Râle pour cette montre. Je passe devant un bijoutier, systématiquement, je regarde si j'ai une montre qui me plaît. Mais je rectifie ce qui a été dit tout à l'heure, malheureusement 400 euros pour moi, c'est trop cher, donc je me limite au moins à 150 euros parce que sinon je ne serais pas raisonnable, et j'en trouve des sympas.
Alors justement, c'est une question pour vous trois, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de fabriquer une montre française avec des petits prix ou est-ce que quand on dit montre française, c'est forcément une montre de luxe ? Florian, Henrik ?
Moi, je pense que vous avez l'exemple vivant qui est là, qui est Florian, qui a réussi à sortir une montre, j'ai pas envie de dire bon marché, mais une montre très accessible, fabriquée exclusivement en France.
Combien une montre de Florian ?
Ça vaut combien une montre de Florian ?
Il y a deux prix, il y a 295 et 345 euros.
Celle que tu as sur la...
Celle que j'ai au poignet, c'est 345 euros, c'est le modèle
radar.
Très
belle. Hein.
Qu'on trouve sur routine.fr. Et c'est l'objectif, la base, c'était de dire... qui était la colonne vertébrale, tout ce qu'on peut faire en France, on le fait en France, et l'objectif c'est aussi de le rendre accessible. C'est de faire une montre française, fabriquée par les Français, pour les Français. Et pas de positionner, pas de se positionner sur une élite, encore une fois, qui pourrait bénéficier d'un super savoir-faire, etc. C'est aussi de rendre ce savoir-faire accessible.
Pour les Français, on peut le vendre aux Suisses, hein.
Oui,
c'est
pour parler aussi aux différentes classes
américains, japonais.
Que j'utilise cette expression-là, mais oui, effectivement, l'idée derrière, c'est aussi de venir le vendre à l'international et de venir valoriser ce savoir-faire.
Florian, j'ai deux questions avant qu'on se quitte, parce que le temps justement tourne. Hein. On a une horloge nous aussi ici à Europe 1. Routine fabrique-t-il des montres à quartz ou mécanique ? Me demande Patrick. Dans l'Aude.
C'est une très bonne question et c'est des montres à quartz, donc du coup c'est des montres à piles et on a choisi ce mouvement-là puisque du coup donc il n'y a plus de fabricants de mouvements en France, mais ce mouvement nous on va l'acheter en Suisse et la Suisse sous-traite la fabrication de ce mouvement à quartz-là en partie en France et on vient l'assembler en France pour y apporter encore plus de valeur ajoutée et redévelopper le savoir-faire d'assemblage de mouvements quartz.
Je crois
que
Aymeric veut rajouter quelque chose.
Il y a le calibre royal quand même en France. Quand tu dis qu'il n'y a plus de fabricants de mouvements.
Là, ça va faire augmenter le prix peut-être.
Oui, pour forcément. Après, ça fait augmenter le prix. Après, plus les contraintes techniques dans l'emboîtage, mais ça fait augmenter le prix. Mais il y a un calibre français.
Un mot encore, Henri Gaucher.
Calibre royal. Vous voudriez bien la marketer, ça.
Oui, oui.
Il va vous aider, vous allez voir. Henri Gaucher, le mot de la fin.
C'est une différence fondamentale entre deux types d'horlogerie, c'est-à-dire l'horlogerie électrique à quartz et l'horlogerie mécanique qui a un côté beaucoup plus patrimonial. Donc, en général, ce sont les deux écoles qui cohabitent très bien. J'ai envie de dire, si j'ai le mot de la fin, qu'il y a en ce moment une vague française qui est en train de se lever. Et comme vous le disiez, cher monsieur, c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on a besoin de vendre en dehors de notre savoir-faire qui est là, et ça tout le monde est d'accord pour ça, c'est nos idées et cette image que l'horlogerie française peut avoir par rapport aux autres pays producteurs. Voilà, on a vraiment des choses à dire, on a une French touch, on a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, donc disons-le, et puis transformons ça en un vrai courant économique.
Et on aurait pu parler encore d'autres marques qui sont françaises et qui défendent nos couleurs. Je signale juste qu'on était en ligne avec Olivier, on n'a pas eu le temps de le prendre, mais Olivier, eh bien, lui, il est en train de porter un projet d'horlogerie mécanique dans la région Rhône-Alpes, issu du savoir-faire technologique de notre région, me dit-il, et ça s'appelle Seven Watch, c'est bien ça. Voilà pour l'essentiel des marques. On aurait dû évidemment prendre beaucoup plus de temps. Merci à tous d'être venus sur
Europe 1.
120 ans qu'ils fabriquent des savons du côté de Marseille. Gros plan aujourd'hui sur l'entreprise qui va bien, merci. C'est Marius Fabre. Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge sur Europe 1. Il est 13h44. On va s'intéresser maintenant à une entreprise qui va bien, Raphaël Duchemin.
Une entreprise qui va bien, sent bon le sud de la France, car c'est à Salon de Provence, il y a 118 ans qu'elle est née. Bonjour Julie Bousquet-Fabre.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous co-dirigez l'entreprise familiale. Vous êtes la quatrième génération. Vous avez commencé à faire du savon dans un jardin avec deux chaudrons. C'est l'arrière-grand-père, c'est ça, qui a commencé à Marseille.
C'est ça, c'est Marius qui a commencé en 1900. Il avait 22 ans. Marius était mon arrière-grand-père. Et il était salonnais. Il habitait à Salon de Provence. On est toujours dans notre ville natale, à quelques encablures de Marseille. Et il a commencé à fabriquer ses premiers savons de Marseille avec deux chaudrons et des mises, qui sont ces bacs de séchage traditionnels, dans un hangar au fond de son jardin, au centre-ville de Salon.
Mais pourquoi est-ce qu'il a eu envie de se lancer là-dedans ? Racontez-moi.
À ce moment-là, c'était l'âge d'or de l'huile d'olive, du négoce de l'huile d'olive et de la fabrication du savon de Marseille dans toute la région marseillaise. Marseille était bien entendu le, et est toujours le premier pôle de fabrication du savon de Marseille, mais était suivi tout de suite par Salon de Provence, avec un dynamisme commercial et industriel hors pair pour une petite ville comme Salon, et qui a vraiment marqué la fin du 19e siècle et tout le début de ces années 1900. Et mon arrière-grand-père avait 22 ans en 1900 et il s'est lancé comme ses confrères salonnais dans la fabrication du savon de Marseille.
Oui, c'est vrai qu'on est dans la région idéale. Hein. Il y avait le sel, la soude, l'huile d'olive, effectivement.
Toutes les matières premières.
Tout était là pour qu'on puisse faire du savon de Marseille. Il est toujours fabriqué comme à l'époque, dites-moi. C'est 5 étapes, hein, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, c'est un savoir-faire très particulier qu'on a réussi à perpétuer à la savonnerie Marius Fabre aussi. Beaucoup, je pense, parce que c'est resté dans la même famille. Donc, avec ma sœur Marie, nous sommes la 4e génération à perpétuer l'aventure. Et on fabrique comme notre arrière-grand-père le fabriquait, avec quelques petites améliorations. Ouais. Mais oui, tout à fait, dans des grands chaudrons. Le principe, ce qu'il faut comprendre de la fabrication du traditionnel savon de Marseille, c'est que c'est en quelque sorte une recette de cuisine. On a ces grands chaudrons qui peuvent contenir jusqu'à 40 tonnes de savon. Et on va faire cuire, on va mélanger les huiles végétales, notamment cette précieuse huile d'olive, à laquelle on va ajouter de la lessive de soude. Et c'est sous l'action de la soude et de la chaleur que les huiles vont peu à peu se transformer en pâte de savon. C'est l'empâtage. Et ensuite, on fait cuire pendant une dizaine de jours. On lave à l'eau salée, au sel de Camargue. On a notre maître savonnier qui est là depuis 25 ans, qui connaît exactement le savoir-faire et qui donne un savon de Marseille au final extra pur et très bon pour la peau.
Ce que je n'ai pas dit, c'est que vous êtes entreprise du patrimoine vivant et qu'il n'y a en fait en France aujourd'hui plus que 4 savonneries traditionnelles.
Alors nous sommes réunis avec nos confrères marseillais, la savonnerie du Fer à Cheval, la savonnerie du Midi et la savonnerie du Sérail et Marius Fabre à Salon pour défendre, promouvoir et faire connaître l'authentique savon de Marseille parce qu'il est bien menacé depuis plusieurs années.
Oui, il y a la guerre du savon, évidemment, qui est lancée.
Et pour faire connaître aux consommateurs qui d'ailleurs ne comprend pas que ce merveilleux produit français et reconnu dans le monde entier ne soit toujours pas protégé par l'État.
Sylvain Lambert, le coach.
Alors justement, je vais vous dire ce qui vous arrive comme à l'Aïeul où les couteliers de l'Aïeul se battent contre des tas de gens qui appellent des couteaux de l'Aïeul et qui viennent même de l'autre bout du monde. Est-ce que savon de Marseille, si je suis consommateur, c'est un label, vous avez écrit savon de Marseille, où j'ai une garantie ou comment vous arrivez à vous protéger?
Vous n'avez aucune garantie.
Aucune.
N'importe quel savon peut être... il peut y avoir
même
la mention savon de Marseille dessus.
Exactement. À l'autre bout du monde, j'écris savon de Marseille et j'ai bon.
C'est une grande confusion pour le consommateur. Justement, l'Aïeul, on a un peu le même combat. J'étais avec eux ce matin hein, parce qu'on se serre les coudes pour faire valoir ces indications géographiques qu'on demande, qu'on appelle de nos voeux auprès de l'État.
IGP, oui. Voilà. Vous faites 1000 tonnes de savon, c'est ça, par an?
Environ, oui. Oui.
Ça représente combien de savons qui sortent de chez vous? Vous savez dire ça ou pas?
Plusieurs
du tout
milliers. Après, c'est 1000 tonnes comme ça, ça fait beaucoup.
Et c'est toujours le carré avec le
cube,
le
bien sûr. Le cube, bon, il peut présenter d'autres formes aussi, mais effectivement, le traditionnel savon de Marseille, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est le cube qui sert à tout.
Elisabeth,
on peut donc laver, vous disiez, visage, corps, vêtements, tout. Il est utile pour tout, le savon de
Alors,
Marseille.
Utile,
c'est vrai,
pour tout.
C'est une légende.
Ah non, c'est utile pour tout. D'ailleurs, c'était le savon qu'on utilisait dans tous les ménages avant l'arrivée des détergents de synthèse, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est un produit magique et notamment excellent pour la peau. Ça, les gens le savent moins parce que c'est un peu perdu. Mais notamment, le savon de Marseille à l'huile d'olive, c'est un... Il contribue à diminuer le dessèchement de la peau et par les propriétés nourrissantes de l'huile d'olive et son procédé de fabrication avec tous ses lavages, il ne dessèche pas la peau, il est vraiment très nourrissant et surtout il est dénué de tout additif chimique. Donc il n'y a aucun parfum, aucun colorant, aucun conservateur dans le véritable savon de Marseille.
Et je précise que vous avez aussi lancé une lessive en 2014, c'est important de le signaler, vous parliez justement des vêtements tout à l'heure. Marius Fabre, merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Dernière partie de La France bouge avec vous, Raphaël Duchemin. Marre de faire la vaisselle,
oui.
Mais pas la place ni les moyens de vous offrir un lave-vaisselle. Bob est peut-être votre solution. Il est gros comme allez, un micro-ondes, un peu plus, il fait la vaisselle. Je vous parle d'un mini lave-vaisselle 100% français, Elisabeth Assayag.
Ben oui, imaginez un lave-vaisselle ultra compact. Il est là, à côté de nous. Vous allez pouvoir
le voir sur europe1.fr.
C'est le plus rapide du monde. C'est un petit condensé de technologie. Il est petit, connecté, écologique. Et de plus, il fait votre vaisselle en un minimum de temps. Il s'appelle Bob.
Bob, et son créateur ne s'appelle pas Bob, c'est Damien Py, bonjour.
Alors on est deux créateurs, Damien Py et Antoine, qui a fait Dantech, et en fait Bob, on se dit avant il y a Bob l'éponge, et maintenant il y a Bob le lave-vaisselle, et l'idée en fait c'est permettre à tous les gens qui sont encore contraints d'utiliser l'éponge, d'en finir avec l'éponge et d'utiliser Bob.
Mais vous êtes vous-même étudiant?
Alors, Je suis plus étudiant, on est une vraie entreprise.
Quand vous étiez étudiant, vous avez eu l'idée de lancer Bob.
Tout à fait, en fait. Alors,
vous en aviez marre de faire la vaisselle.
Exactement,
c'est ça.
On avait marre d'utiliser l'éponge. Et du coup, on s'est dit, faut faire quelque chose. Et l'idée, c'est un petit lave-vaisselle qui se pose à côté de l'évier sur l'égouttoir. Il n'y a pas besoin d'arrivée d'eau parce qu'on le relie en fait juste au réseau électrique. On remplit le réservoir comme une machine à café de 3 litres. Et ça suffit pour laver en 20 minutes la vaisselle quotidienne de 2 personnes. C'est-à-dire 4 assiettes, 4 verres, 2 tasses et 2 bols. Donc là, pour le réservoir, on a un petit capuchon sur le dessus qu'on peut enlever.
Dessus, là, oui.
Exactement. On remplit avec un pichet
d'eau. On met de l'eau.
Et ça suffit pour laver en 20 minutes. Et on a quand même la possibilité de le connecter au réseau d'eau. Typiquement, si on est propriétaire ou qu'on veut l'encastrer, on peut le faire.
Bon, alors, on l'entend, il est génial, il est totalement révolutionnaire. Il coûte combien?
Alors, à terme, Bob coûtera 299 €, mais pour les Early Birds, il est encore à 199 € sur notre site internet, en précommande. Donc, on est déjà à 4600 précommandes.
C'est quoi les Early Birds?
C'est ceux qui commandent avant tout le monde,
que vous puissiez entamer la fabrication.
Exactement. En fait, Bob sera livré seulement l'été prochain, puisqu'il y a des délais d'industrialisation qui sont assez longs. Mais en fait, en dédommagement de ça, on fait un tarif préférentiel qui est 100 € de moins par rapport au prix final.
Mais 299 €, ce lave-vaisselle, alors il est magnifique, on pense évidemment aux étudiants, mais 299 € pour un lave-vaisselle, moi j'ai envie de dire à l'étudiant, fais ta vaisselle, ça reste très cher tout de même.
Votre étudiant ou votre étudiante ne vous supplie pas de l'avoir pour Noël, parce que quand il supplie d'avoir un iPhone, il l'a, donc il ne faut pas oublier ce détail-là. Puis surtout,
argument de vente, dites-moi.
On vise pas que les étudiants, en fait. Nous, sur toutes les personnes qui ont commandé Bob aujourd'hui, il y a plus de 50% qui ont plus de 30 ans, donc ce n'est pas seulement les étudiants.
Donc pour des petits espaces peut-être?
Nous, en fait, c'est toutes les personnes qui vivent seules ou en couple. On a beaucoup de personnes qui ont
dans
plus de 50 ans.
Dans des petits espaces et qui n'ont pas la place de mettre un vrai lave-vaisselle, un grand lave-vaisselle.
Pas l'usage, on a beaucoup de personnes qui ont un gros lave-vaisselle, mais qui ne l'utilisent pas, ils l'utilisent seulement quand les enfants viennent.
Que dit le coach Frédéric Mazella?
Moi, d'abord, je le trouve très beau.
Oui, il est très beau.
C'est le iMac des lave-vaisselles.
Oui, c'est vrai.
Il a un look révolutionnaire. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas révolutionné le look des lave-vaisselles. Donc là, je trouve que c'est quand même vraiment une bonne idée. Parce qu'en fait, c'est pas l'objet le plus beau de la maison, d'habitude, le lave-vaisselle. Et là, il y a une recherche d'esthétique. Donc déjà, rien
ouais, avec
pour
le,
ça,
le hublot
bravo.
Devant.
Hein. Ouais, c'est très marrant. Ensuite, c'est vrai que 299 €, oui, ça peut être. Peut paraître un peu cher, donc effectivement il faut se ruer sur 199 parce que c'est déjà 100 € de moins, donc il faut y aller tout de suite. D'ailleurs on le trouve où? C'est quoi? C'est un site de crowdfunding que vous avez fait?
Alors non, en fait nous c'est sur notre site internet, donc dan.tech, Damien et Antoine.tech, T-E-C-H. Et en fait, pourquoi notre site internet? Parce qu'on peut le personnaliser. Il y a 12 couleurs pour la porte, 2 pour le corps, blanc ou noir. Et on peut même graver un petit message à l'arrière.
Ah, génial!
Elisabeth?
Et alors, après le lave-vaisselle, ce sera quoi la suite?
Le lave-linge.
Ouais, le lave-linge, ce sera tellement utile.
Effectivement, on a toute une gamme de produits en tête. Nous, l'idée à terme, c'est de devenir un fabricant d'électroménager, de relancer un peu une filière qui, on va dire, pas très en vogue aujourd'hui par rapport à d'autres. Mais voilà, déjà, Bob, c'est notre premier produit. On se concentre là-dessus sur les prochains mois. Et évidemment, on espère.
Et Bobby, le lave-linge?
On va pas spoiler, mais on laisse encore plein de surprises.
C'est dans la tête?
C'est dans la tête, évidemment.
Vous reviendrez nous en parler, évidemment.
Avec grand plaisir.
On prend rendez-vous. En tout cas, merci pour Bob et pour tous ceux qui vont l'utiliser. Merci à Frédéric Mazella d'avoir été notre coach aujourd'hui. On se dit à bientôt. Elisabeth, nous, on se retrouve demain et nous ferons sauter les bouchons. Champagne à la française, bien sûr.
Bien évidemment, Raphaël Duchemin. On souhaite un joyeux Noël d'ailleurs à tous nos auditeurs d'Europe 1. C'était La France bouge. À demain, Raphaël Duchemin. Dans un instant, ce sera Ondelat raconte, Christophe Ondelat, qui se replongera dans la vie de Charles Aznavour, l'enfance et les débuts sur scène de Charles Aznavour. À tout de suite.